Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
En première mi-temps, c'était limite des adultes face à des enfants. On a essayé d'y remédier en deuxième mi-temps, mais c'était, à mon avis, trop tard.
Hello les amis, trop tard pour Abdoulaye Touré et les Havrais surclassés ce week-end par le LOSC battu 3-0. On y revient dès l'entame de votre débrief 100% hack. Et j'accueille nos partenaires pour ce podcast, Mathieu Billot de Foot Normand et Luc Gallet du Courrier Cauchois. Bonjour à tous les deux.
Salut. Bonjour à tous.
Et on se demandera ensemble s'il faut accabler Didier Digard, le coach havrais, après cette défaite sèche face à Lille, club de dimension européenne. Et puis messieurs, cette question, est-ce qu'on peut se maintenir en Ligue 1 avec des attaquants qui ne marquent pas, toujours zéro but pour nos havrais? Et pour nous accompagner aujourd'hui, quelqu'un qui connaît très bien les ciels et marines, joueur pendant 13 saisons, capitaine emblématique du HAC, Alexandre Bonnet, Alex Bonnet même, est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous allez débriefer donc avec nous ce match, on parlera bien sûr aussi de votre avenir. Installez-vous confortablement, montez le son, c'est parti pour le débrief 100% HAC, épisode 2. Et messieurs, on va donc commencer avec ce match des ciels et marines croqué par les dogs. Donc samedi, avec ce triplé de Jonathan David, le Havre n'a pas existé, ou si peu. On a vu d'ailleurs les tribunes du stade se vider bien avant le coup de sifflet final. Et en conférence de presse, eh bien, le mea culpa de l'entraîneur Didier Digard.
Je l'ai dit aux joueurs, cette défaite, elle est pour moi parce que ils ont malgré tout donné, je pense. Personne n'a triché, donc c'est moi qui n'ai pas fait les bons choix.
Est-ce que c'est la faute à Digard, Alex Bonnet?
Non, je ne pense pas que ça soit sa faute. Après, c'est vrai qu'en conférence de presse, il assume ses responsabilités. Hein, c'est son boulot. Je pense que c'est une manière aussi de protéger ses joueurs, finalement, de tirer un peu la couverture à lui. Je pense qu'il avait un plan de jeu bien établi, avec une défense à 5 plutôt à plat, une ligne de 4 un peu plus haute avec 3 joueurs offensivement qui étaient susceptibles d'apporter de la vitesse, de la profondeur et de la percussion. Donc l'idée, à mon avis, elle était simple, c'était de contenir ces dogs le plus longtemps possible et puis d'utiliser des joueurs de vitesse capables de créer des différences dans la percussion, dans le dribble. Malheureusement, je pense que ils ont été surclassés, ils sont tombés face à une équipe du LOSC honnêtement que j'ai rarement vu jouer comme ça. En tout cas, c'est certainement leur plus gros match depuis le début de saison. Ils ont fait pour moi un match de Champions League avant l'heure, donc à partir de là, combattre dans cette course c'était un peu trop, la marche était trop haute pour les Havrais. Donc il faut savoir faire la part des choses. C'était un non-match à mon sens. Mais je pense qu'il faut pas les accabler, ni le coach, ni les joueurs. C'était une rencontre à oublier, je pense.
Ah, il a expliqué hein, d'ailleurs que le travail qui avait été fait dans la semaine n'avait pas été payant. Luc, je crois que vous n'avez pas forcément le même avis.
Non, je ne partage pas tout à fait le même avis. Moi, je pense que c'est quand même un peu la faute à Didier Digard, forcément, sur ce match. Et effectivement, il assume en conférence de presse d'un vrai match, il assume son erreur, il dit que c'est la faute à lui. Je pense qu'il y a quand même un petit peu des torts à mettre en avant, notamment sur le plan de jeu, peut-être sur ce match. Je trouve qu'au milieu de terrain, par exemple, ça a manqué un peu de densité, par exemple, notamment face à un excellent milieu de terrain lillois. Enfin, on l'a vu dès le premier quart d'heure, je crois qu'ils ont... je sais plus s'il y avait une statistique à un moment donné, c'était 88% ouais. De
ouais.
pourcentage.
Ouais, position. Après 10-15 minutes, voilà, c'est ça les stats. Ouais.
Donc clairement, c'était compliqué déjà d'entrée de jeu, parce que le LOSC a monopolisé le ballon. Et en plus, pareil... Il voulait jouer un peu sur la rapidité de ces hommes, on va dire, offensifs. Mais le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu d'appel dans le dos des défenseurs. Il n'y a jamais eu de mouvements qui ont permis d'avoir un peu de danger, ne serait-ce qu'un petit peu de danger dans cette première période. Donc, pour moi, le plan tactique est un petit peu raté. Et là aussi, où je trouve qu'il y a aussi peut-être un tort à mettre en avant, c'est le fait de ne pas avoir fait de changement à la pause. On a vu dès qu'il y a eu des changements à l'heure de jeu.
On s'y attendait hein, d'ailleurs dans les tribunes, c'est ce que disaient les gens aussi.
Moi je pensais qu'il y en aurait eu dès la pause et finalement il a attendu un peu plus l'heure de jeu pour faire 4 changements en plus d'un coup. Ça a porté en plus un petit peu ses fruits parce que tout de suite il y a eu une occasion avec N'Goura qui a malheureusement raté son duel, on y reviendra peut-être un peu après. Mais voilà, il y a eu quand même un petit effet. Mais bon, moi j'aurais attendu des changements un peu plus tôt en voyant notamment la première période et ça a été très très compliqué pour le HAC.
Mathieu, est-ce qu'il aurait fallu... faire des changements plus tôt, mettre un Dallaire Koudaïef sur le terrain dès l'entame.
Le fameux Dallaire dont on parle à toutes les confs et tous les matchs. Mais moi, j'ai plutôt envie de retourner la question à Alex parce que moi, je on peut comprendre qu'un changement, je sais pas, en tant que joueur professionnel, quand on fait un changement à la mi-temps, ça peut aussi être vécu comme une sanction par un joueur. Donc il y a tout aussi un côté psychologique. Moi, pour moi, le match, il était, n'était pas perdu à 100%, mais il était quand même très, très, très mal engagé. Est-ce qu'on peut comprendre aussi un petit peu le coach ? Il y a quand même une partie de psychologie quand on gère un vestiaire, j'imagine en tout cas.
Il y a une partie psychologique, mais je trouve quand même de moins en moins, parce qu'on rencontre quand même de plus en plus d'entraîneurs qui font des changements de plus en plus tôt, notamment à la mi-temps. Et au final, c'est vrai que parfois, ça s'avère payant, parce qu'il y a des matchs où les scénarios se retournent complètement. Là, je te rejoins un peu. C'est vrai que face à une équipe de ce standing ce soir-là, bon, les carottes n'étaient pas cuites, mais en tout cas, ça semblait quand même mal embarqué. Mais c'est vrai qu'il aurait pu tenter peut-être quelque chose. Je pense que les entrées ont fait du bien, même si forcément le scénario les dés étaient déjà pipés, je pense. Mais ça a apporté en tout cas de la vitesse. Ils se sont créés des occasions. Targaline, Sabi, Ngoura, c'est vrai qu'ils ont apporté un petit plus. Mais bon, on est dans un scénario aussi où l'équipe lilloise menait. A aussi géré, ils savaient qu'ils allaient jouer en Champions League aussi quelques jours plus tard. Donc,
le taf avait été fait avant, quoi.
Voilà, mais en tout cas, force est de constater que ça a rajouté un peu de peps à cette équipe havraise.
Et on précise juste que Targaryen, s'il n'était pas titulaire, c'est que visiblement, il n'était pas en état de l'être. Parce que forcément, qu'un Targaryen à 100%, Didier, il ne s'en prive pas. Et comme il l'a expliqué, il a été malade, puis fatigué. C'est un joueur qui, on a l'impression qu'il y a une petite fragilité quand même et qui est beaucoup sollicité. Parce qu'il y a club, sélection du Maroc, il a eu le bonheur de faire les Jeux, de ramener une médaille pour son pays, et donc il y a un souci de l'économiser, et encore une fois, bon, moi c'est un peu mon credo, c'est qu'il y a un hack avec et sans Oussama Targaryen, et donc forcément il y a un match qui est raté, il y a 0 points, mais il y a une saison à assumer derrière, et il faut pas tout cramer parce que il y a un match effectivement qui a raté dans les grandes largeurs, donc effectivement les changements apportés, mais il y a aussi des choix qui étaient peut-être un petit peu contraints par les forces en présence.
Et cela prouve peut-être justement que Oussama Targaryen est peut-être la pièce maîtresse en ce moment du hack aussi. On l'a vu, il n'était pas là en première période, il n'était pas là jusqu'à l'heure de jeu, et après ça a tourné un petit peu mieux quand même. Donc,
Moi je sais pas ce qu'en pense Alex, mais c'est vrai que moi, je considère que c'est le joueur majeur du hack.
Oui, c'est vrai que c'est un joueur très important, qui a une qualité technique extraordinaire je trouve, et qui bonifie forcément le jeu de ses partenaires, et c'est vrai que la gestion de ce joueur-là, qui a connu quelques pépins, une certaine fragilité, je pense que c'est aussi très intelligent de la part de Didier Digard de le maintenir le plus longtemps possible dans de bonnes conditions physiques pour l'avoir pour un maximum de matchs au final durant cette saison.
On parlait du club européen, on est dans un tunnel européen quasiment, hein, parce que Monaco, on a Brest qui arrive, même si c'est un tout autre calibre, on aura... Rennes qui est pas voilà qui est, mais
alors Rennes n'est pas en Coupe d'Europe,
voilà,
c'est un
pas
gros club,
mais
c'est pas en
mais on peut dire que c'est quand même un club européen
de toute façon des clubs sans mésestimer personne du calibre du HAC entre guillemets dans une Ligue 1 18, il y en a pas 50. Le maintien, il va jouer avec qui? Il va jouer avec Angers, avec Saint-Étienne, Montpellier,
Auxerre
effectivement. Allez, on peut peut-être mettre Toulouse, si la saison s'en bride pas très bien, et c'est en train d'être le cas, même s'il n'y a que 6 journées de jouer. Voilà, peut-être Brest, s'ils sont un peu victimes de leur parcours en Ligue des Champions. Et sinon, quand vous regardez les effectifs des clubs de Ligue 1, tout le monde est au-dessus. Alors Lille, c'était vraiment le grand écart, parce que vraiment, à l'échelle de la Ligue 1, vraiment top équipe avec des super joueurs. Hein. Zegrova, bon, on a beau me dire qu'il fait toujours la même chose, mais ça fonctionne tout le temps. Quoi, donc,
pas que lui d'ailleurs, Angel Gomez, Jonathan David qui est monstrueux devant. C'est vrai qu'on rêverait d'avoir des joueurs comme ça.
Exactement,
quoi.
Moi c'est ce que la petite stat que je me disais, c'est quel joueur du HAC aujourd'hui pourrait être titulaire dans cette équipe de Lille? Peut-être aller Chris Opéry, parce que je trouve que c'est vraiment un latéral de qualité, et que le latéral gauche de Lille samedi, bon, il n'a pas eu besoin beaucoup d'attaquer, peut-être, donc voilà.
Il fait un beau sauvetage.
Chris Opéry.
Chris Opéry.
Alors après, c'est lui qui avait créé la propre boulette. Il a rattrapé sa connerie, c'est très bien de le faire. Non, mais Chris Opéry, c'est un top joueur en niveau du HAC. Et un Oussama Targaryen, peut-être à 100%, on pourrait peut-être se mêler à la lutte avec les milieux lillois, même s'ils sont d'un calibre quand même certain. Mais sinon, forcément, tous les mecs de Lille, ils sont bien au-dessus, à l'instant T, des mecs du HAC. Donc, au final, pas trop de surprises, quoi.
Ah, le LOSC a prouvé qu'il n'était pas du tout dans la même cour, qu'il était dans une cour bien supérieure à celle du HAC, ça c'est bien dessus.
J'imagine, Alex, des matchs comme ça, peut-être, malheureusement, t'en as vécu, où on sent très vite qu'on est impuissant face au collectif adverse. On a beau avoir la meilleure volonté du monde, mais...
Oui, c'est ça. Et puis quand le LOSC entame le match de cette manière, en fait, c'est vrai qu'il laisse peu d'espoir à l'équipe du HAC. Donc, c'était une soirée difficile, mais bon, c'était difficile de rivaliser. Le LOSC a, je crois, un budget quasiment trois fois supérieur à celui du HAC. Ils jouent la Champions League, ils ont des individualités largement supérieures. Et puis quand on a Jonathan David devant qui est aussi redoutable, qui montre cette efficacité, bon, ils sont quasiment injouables.
Et vous parliez il y a quelques instants des clubs qui pouvaient potentiellement être des concurrents au maintien. Bah, cette question dans votre débrief 100% HAC, nos attaquants, toujours aucun but validé depuis le début de la saison. C'est une question qui revient systématiquement d'ailleurs en conférence de presse. On a même vu Didier Digard un brin agacé samedi sur cette question.
Oui, on peut le comprendre parce qu'on lui pose à chaque fois, donc au bout d'un moment. Alors, puis bon, quand vous avez pris 3-0, peut-être que votre priorité, c'est pas non plus de répondre forcément aux médias. On peut le concevoir tout à fait.
Bon, et on avait déjà évoqué le sujet avec lui à maintes reprises, et notamment avant le match face à Toulouse, c'était mi-septembre. Je vous propose d'écouter cet extrait où il parle du gardien Arthur Desmas.
Moi, si c'est Arthur qui marque, ça me va. Hein. Non, mais en fait, franchement, c'est très dur parce que moi, mon message auprès des joueurs, il a toujours été tourné sur le collectif et le travail de tous. Et je veux surtout pas que les joueurs, les attaquants, soient omnibulés par ça alors qu'ils participent énormément au travail défensif. Donc, personnellement, je suis pas du tout pressé. Moi, tant qu'on marque des buts, ça me convient. Et après, non, je serais forcément content pour eux, mais moi, en tout cas, j'y pense pas.
Est-ce que vous y pensez, Alex Bonnet, à ça ?
Mais oui, on y pense parce que c'est important d'avoir des attaquants, d'avoir des mecs au bout de l'équipe qui terminent le travail et qui bonifient le travail de toute une équipe. Et puis, à ce niveau-là, il faut des buteurs. Alors, le départ de Bayo, le départ d'Ayou, finalement, n'ont pas forcément été compensés. C'était des joueurs importants en termes d'expérience. C'est des joueurs qui ont marqué des buts et c'est des joueurs qui apportaient beaucoup offensivement. Donc là, il faut, je crois que l'entraîneur l'a dit, mais il faut composer avec les joueurs en présence, des joueurs jeunes qui n'ont pas forcément une énorme expérience. Donc c'est à eux aussi de prendre leurs responsabilités. Ils ont la chance de jouer à ce niveau-là et il faut qu'ils apprennent plus vite. Donc ça peut prendre un peu de temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du talent. Donc, il y a des joueurs qui vont certainement avoir un déclic à un moment donné. Il faut garder confiance et puis aller de l'avant. Mais bon, globalement, il n'y a pas encore matière à s'inquiéter. Mais certainement qu'au prochain mercato, il faudra taper juste et trouver un joueur d'un calibre peut-être supérieur pour permettre au Havre de se maintenir.
Une surprise à la Ayou un petit peu la saison dernière, Luc Gallet. Je vous vois faire hocher la tête.
Ouais, quand on se souvient du discours du président Roussier lors de notre première émission, où en gros le discours c'était clairement il faut vendre avant d'acheter. Bon, je suis un peu pessimiste là-dessus. Et puis en plus avec les moyens du HAC qui sont réduits, je ne sais pas trop quelle marge de manœuvre ils vont pouvoir avoir pour recruter un tel profil. Mais oui, c'est sûr que là, clairement, ça manque un peu d'atouts, ça manque un peu de poids offensif pour le moment, ce début de saison, ça c'est indéniable.
Mathieu, même avis ?
Non, mais c'est le constat à l'instant T, il est indéniable. On peut quand même préciser que dans un football sans VAR, Josué Casimir serait à deux buts. Alors, c'est pas le cas aujourd'hui, donc c'est du football fiction, donc ça a pas à revenir, mais c'est un but contre le PSG où il y avait un partout, et c'est un but contre Monaco quand il y a un partout, et c'est des hors-jeux pour un poil de millimètre, donc ça se joue à pas grand-chose.
C'est-à-dire qu'il y aura des points qui
auraient pu être... Ça pourrait être signé, mais on est totalement du football fiction, mais Josué Casimir qui a par ailleurs provoqué deux pénaltys, dont un synthé qui débloque le score. Donc je trouve que c'est plutôt la bonne trouvaille de Didier Digard, moi, depuis ce début de saison, de quand il joue en pointe, un poste auquel personnellement je n'imaginais pas, vu que l'année dernière avec Lucas Hesner c'était presque un piston droit Josué. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne trouvaille. Après, bon, voilà, c'est Josué Casimir, même si c'est peut-être l'attaquant presque le plus expérimenté du groupe avec Emmanuel Sabi, mais ça reste malgré tout un jeune joueur. Et puis derrière, par contre, c'est des très jeunes joueurs qui n'ont jamais... personne, hormis Emmanuel Sabi l'année dernière, personne n'a jamais scoré en Ligue 1. Je pense que je pourrais le demander à Alex. Alex, t'as mis combien ? 52 buts avec le HAC ?
Oui.
Au foot, le plus dur, c'est de marquer les buts.
Bah oui, c'est le geste le plus
C'est pour ça
difficile.
Que les attaquants sont les mieux payés.
Enfin, exactement.
Voilà. Donc au bout d'un moment, du Steven Gouras à 19 ans, du Ilyes Housni, c'est pareil, ça a 19 ans, mais c'est des bons jeunes qui ont des sélections dans des équipes de jeunes, mais au haut niveau, ils n'ont jamais rien prouvé. Ça se trouve, à 25-26 ans, ces gars-là, ils vont peut-être tout casser, mais en attendant.
Hâte de voir, par exemple, un Ilias Ousni qui pourrait montrer un petit peu ce qu'il sait faire ou pas.
Oui, mais bon, après, voilà, il faut trouver peut-être la bonne formule. Je pense que l'entraîneur peut-être tâtonne un petit peu au niveau offensif avec des changements de joueurs, des changements de poste. Donc, et puis, je pense qu'aussi, il s'adapte parfois en fonction de l'adversaire. Il essaie de trouver de la meilleure formule pour être dangereux et rapporter des points. Mais bon, voilà, c'est le début de saison. Je pense que les joueurs vont aussi prendre conscience de leur potentiel et puis au fur et à mesure gagner en confiance. Et il ne suffit de pas grand-chose, comme tu l'as dit. Si les buts de Josué sont validés après, hein, ça peut vite s'enchaîner. Donc, il faut persévérer.
Est-ce qu'au cours de votre carrière, c'est déjà arrivé ça qu'on reproche à l'équipe à ce moment-là de ne pas avoir d'attaquants
capés? Oui, c'est vrai que ça arrive. Hein. Parfois, on peut pointer un petit peu du doigt le fait que les attaquants ne marquent pas, comme parfois l'inverse est vrai. On peut pointer du doigt les défenseurs parce qu'on concède trop d'occasions ou trop de buts. Donc, dans ces cas-là, il faut faire front. Et puis, je crois que le coach l'a dit, mais il l'a dit en rigolant en disant que Desmas pouvait marquer. Mais il faut sentir que le HAC, c'est ça, c'est une force collective depuis quelques temps. Et le danger peut venir de partout. Donc, chacun est capable de marquer, notamment sur les coups de pied arrêtés, on est plutôt performant. Donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités pour que, justement, on ne cible pas que les joueurs offensifs, mais que tout le monde soit impliqué dans cette réussite-là.
Hugalet.
Oui, et puis le problème n'est pas forcément nouveau. Hein. Déjà, en fin de saison passée, il y avait déjà un petit peu cette difficulté de trouver quelqu'un capable de marquer au moins ces quelques buts qui font la différence sur quelques matchs. Ça a été le cas avec André Ayew, notamment, justement, sur la fin de saison passée, notamment. Mais voilà, ça, pour le moment, c'est là où ça manque un petit peu. Et moi, il y a quand même une interrogation aussi que j'ai par rapport à ce registre offensif-là, c'est pourquoi Emmanuel Sabi n'est pas installé comme titulaire dans cette équipe-là. C'est pour moi l'attaquant majeur, pour le moment, dans ton effectif. C'est là aussi, ça reste pour moi une inconnue quoi, de savoir pourquoi il n'est pas instauré pleinement titulaire dans cette équipe.
Bon, visiblement, il est moins en forme que la saison dernière, selon les échos qui peuvent nous remonter. Il a eu pas mal de petits pépins à droite à gauche. Je pense aussi que c'est des questions aussi de système de jeu, de profil. Alors ce week-end, c'était un peu l'exception parce que c'est vrai qu'il y avait trois joueurs à vocation offensive d'entrée. Mais sinon, on a pu voir dans les précédentes compos qu'il y avait souvent Josué Casimir en neuf. Donc les deux pistons côtés que sont Loïc Nego et Christopher Opéry, et après un entrejeu très dense où des fois vous aviez Oussama Targaline, Yacine Keshta, Abdoulaye Touré, Rasoul Ndiaye d'associé, des fois c'était Daler Kouzaïef. Donc c'est vrai, enfin il a vraiment essayé des fois de maximiser un petit peu. Je pense qu'il maximise ses points forts. Honnêtement, Arthur Desmas, grosso modo, je pense qu'il a le niveau Ligue 1, il fait des bons matchs.
Heureusement qu'il était là.
Heureusement qu'il était là, sinon les pilules auraient été plus sévères. Ouais. La défense, bon voilà, d'une manière générale, je pense qu'elle a aussi le niveau Ligue 1 pour se maintenir. Le milieu aussi. Donc voilà, le coach, il essaye de bonifier l'effectif qu'il a à disposition en faisant des fois des compositions qui peuvent paraître peut-être originales de l'extérieur. Mais donc voilà, donc Sabi, c'est rien que pour l'instant, c'est pas. Bon, c'est 5 buts l'année dernière et pour l'instant, on n'a pas vu ça. C'est que le début de saison, c'est encore long et c'est sûr que si. Vu les forces en présence, c'est clair que je pense que le HAC aura besoin d'un Emmanuel Sabi au niveau de la saison passée. Ouais.
On veut des pirouettes, un petit peu.
Oui!
En célébration de but.
Alors, je pense que les supporters du HAC veulent des buts, surtout. Et si c'est synonyme de pirouette, c'est tant mieux, mais je pense qu'on voit. On voit un garçon comme Issa Soumaré qui est aligné en pointe. Bon, alors après, on en pense ce qu'on veut d'Issa Soumaré et Luc nous donnera son avis après, mais c'est un garçon, il a quasiment, enfin au plus haut niveau, il a jamais joué à ce poste-là. À QRM, je ne sais pas si tu avais joué avec lui. Oui. Si, tu avais joué avec lui, hein, à QRM. Ouais. Moi, je me souviens que c'était, enfin, tu peux nous en parler, il avait fait une super bonne saison, mais plutôt sur un rôle sur le côté.
Oui, il était excentré gauche.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Et il avait fait
une excellente saison parce qu'il a des qualités de détente déjà incroyable, et puis c'est un joueur qui aime bien rentrer sur son pied droit, qui aime bien provoquer, et puis par sa vitesse est capable de faire des différences.
Très fort de la tête aussi, si je me
trompe
pas.
Très fort de la tête, il a un très bon jump, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il l'a placé en pointe ce week-end, c'est peut-être qu'il pensait allonger un peu plus et puis jouer peut-être en déviation sur les deux côtés, mais ils ont eu du mal à le trouver, ils ont eu pas mal de déchets au final, je pense à la récupération du ballon, donc ils ont pas forcément pu les trouver devant, mais c'est vrai qu'Issa, je pense que c'est pas forcément un rôle qui lui correspond trop, et c'est un rôle qu'il découvre, donc il est, je pense,
et en Ligue 1.
Et en plus, en Ligue 1, donc la marche est encore plus haute, mais il serait plus susceptible de faire davantage de différence à son poste dans le couloir gauche, certainement.
Ouais, puis là, moi, c'est l'impression que j'ai eue en voyant ce match contre le LOSC, c'est que ça, il a manqué de coffre, quoi, concrètement, pour le trouver. C'est d'ailleurs l'image du premier but encaissé, hein. Alors, on peut d'ailleurs se demander s'il n'y avait pas faute quand même, hein, au départ de l'action avec Diakité, je crois.
Ouais, je pense que ça peut siffler aussi. Ouais.
Diakité, pardon, qui.
Ouais,
ouais, voilà, je pense qu'il y avait quand même de quoi revoir au moins les images, quoi, peut-être à la VAR sur ce coup-là. Mais
bon, je crois pas que la VAR intervient sur ce type de situation, parce que la VAR n'intervient pas sur toutes les situations.
Ah, mais bon,
je crois
ça entraîne un but. Donc,
ouais. Ouais. Après, vous pouvez remonter très très loin dans les actions. Après, bon, après, il y a peut-être faute. Hein,
Mais voilà, c'est symptomatique. Moi, je pense pas que ça soit vraiment là où il doit être aligné, justement, seul en pointe. Enfin, il n'a pas les qualités, justement, pour être aligné tout seul devant. Je pense qu'il l'a montré d'ailleurs à QRM, c'était un bon joueur sur une aile. Donc, à mon avis, c'est peut-être là où il y a peut-être encore. Ça tâtonne encore, forcément, du côté de Didier Digard à trouver la bonne formule offensive aussi.
Eh ben, on verra ce que ça donne. Pour les prochains matchs, je vous propose de passer à la troisième partie de notre débrief 100% hack.
Mon meilleur souvenir, certainement l'inauguration du stade Océane en 2012 où la fête était incroyable, un événement très festif, un superbe match aussi face à Lille et puis le stade vraiment plein, beaucoup d'engouement et puis vraiment une fête et un environnement très festif et positif tout autour de cette rencontre.
Vous avez peut-être reconnu notre invité Alex Bonnet, on va quand même parler de vous évidemment dans cette troisième partie. Je le disais, hein, faut-il vous présenter, ancien Salé Marine, 13 ans sous les couleurs du HAC, 470 matchs, 52 buts. Vous avez ensuite pris le chemin de QRM, relégué d'ailleurs cette saison en national. On avait d'abord envie de vous demander, parce qu'on ne l'a pas fait depuis le début de l'émission, comment ça va, parce qu'on le rappelle, il y avait cette rupture des ligaments croisés en octobre 2023. C'était d'ailleurs sur le terrain de Sochaux pendant un match de préparation face au HAC.
Oui.
C'est un bien beau souvenir.
Merci
de me le rappeler.
C'est moins sympa que l'inauguration du stade Océane, voilà. Je le conseille.
Pour refaire la vidéo, mon pire souvenir, je l'ai.
Bon. Oui, c'était un souvenir douloureux. Non, je me suis bien remis de cette opération. Ça a mis un peu de temps. Hein. Je suis plus tout jeune, mais bon, j'ai fait tous les efforts nécessaires, en tout cas pour revenir. J'avais l'objectif de pas arrêter ma carrière sur cette blessure et à cet endroit-là. Donc au Havre et j'ai tout mis en œuvre pour justement avoir la possibilité de rejouer un match. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rejouer quelques minutes lors du dernier match de championnat, donc ça c'était important. Maintenant je suis encore en train de me réathlétiser, de continuer, que ça soit les soins et le travail de renforcement pour être prêt, parce que actuellement j'ai pas retrouvé de nouveaux challenges, donc je me tiens prêt parce que j'ai toujours envie de rechausser les crampons, de jouer, hein. Je suis animé par ça, par le jeu, par le ballon, donc je garde ça dans un coin de ma tête et actuellement je me laisse encore un petit peu de temps pour y penser, pour voir les projets qui pourraient se présenter à moi. Et puis sinon, en attendant, j'essaie de garder la forme et puis j'essaie aussi de préparer la suite en essayant de m'ouvrir, de penser, de réfléchir à ce que pourrait être mon avenir aussi.
Entraînement en solo, du coup. Hein.
Alors par contre, oui, entraînement en solo.
Tu veux te proposer pour faire le sparring, Alexandre, pour aller faire des petits footings et tout.
Je garde le micro, moi.
Chacun a son domaine de compétence. Moi, je me posais la question, il n'y a pas eu une possibilité de rester à QRM. Est-ce que tu as eu une offre de... Tu étais en fin de contrat, hein, du coup, hein, si je ne me trompe pas.
Oui.
Le club est descendu de Ligue 2 en National. Hein, l'effectif a été chamboulé à 99%. Mais ouais. Est-ce que tu as eu une proposition de
non,
QRM?
Non, j'ai eu aucune proposition. Je me suis proposé, pourtant.
Toi, tu l'as fait?
Oui, parce que je pense que déjà, je voulais pas finir ma carrière là-dessus. Et puis, moi, c'était pas un frein pour moi, en tout cas, la descente en national. Au contraire, je pense que j'aurais pu prendre encore du plaisir et puis apporter à du coup, un groupe qui a été totalement reformé, où il manque justement de l'expérience. Donc,
Le début de saison est très compliqué.
Le début de saison est très compliqué. Donc, certainement que mon expérience aurait pu être importante. Mais non, du coup, ça n'a pas été repris par le club et il n'y a pas eu de discussion dans ce sens-là.
D'accord, on t'a dit non tout simplement et...
Au départ, on m'a pas forcément dit non, on m'a pas dit oui non plus. Après, il y avait une condition aussi par rapport au choix de l'entraîneur. Donc je pense que l'entraîneur a certainement dû mettre son veto et du coup, ça n'a pas été plus loin.
Est-ce que vous avez eu d'autres approches concrètement durant l'été dernier? Est-ce que des clubs vous ont sollicité?
Bon, honnêtement, ça a été un été très très calme. J'ai eu une approche d'un club de Châteauroux, mais qui ne pouvaient pas forcément faire l'effort financier pour le minimum possible dans ce cas-là, donc ça n'a pas été plus loin. Et puis après, simplement des intérêts mais de clubs amateurs, et moi je n'étais pas forcément prêt à faire ces sacrifices-là maintenant, à ce moment-là de ma vie, donc je me laisse encore un peu le temps de la réflexion, de voir un petit peu si ça bouge encore jusqu'au prochain mercato, mais tout en restant malgré tout lucide sur ma situation. Hein, je vais avoir 38 ans, j'ai quasiment pas joué toute la saison dernière, donc bon, je m'attends pas non plus à des multitudes de possibilités, mais en tout cas, je me tiens malgré tout prêt au cas où.
Ouais, je fais juste la précision hein, pour en avoir discuté ensemble hors de l'heure d'émission. Quand tu dis que t'es pas prêt à faire les sacrifices par rapport au niveau amateur, c'est pas que t'es pas prêt à redescendre forcément à ce niveau-là, c'est plus par rapport aux conditions que forcément si tu redescends à un niveau qu'on peut qualifier de N3, voire même plus bas, ça signifie s'entraîner forcément le soir, parce que tes coéquipiers ont une autre activité à côté. Donc forcément, c'est un impact sur la vie familiale.
Voilà, exactement. Oui,
enfin, c'est, je pense que c'est plus ça que tu.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est les conditions.
T'es
c'est
pas
les conditions,
fermé. En fait, t'es fermé à rien, mais.
Je suis fermé à rien, mais c'est vrai que.
Une petite famille à côté qu'il voilà, faut aussi prendre en considération.
J'ai trois enfants, et c'est vrai que, bon, avec tout le respect que j'ai pour le milieu amateur, ce qui est normal, ils ont des séances en général le soir. Et à ce stade maintenant de ma carrière et de ma vie, j'ai pas forcément envie de sacrifier les moments passés en famille pour ça, donc c'est sûr que ça fait partie forcément des critères de choix.
Et là, pour une pige de 6 mois, imaginons là, donc au mercato d'hiver, là, 1er janvier, pour une pige de 6 mois, si qu'est-ce que je peux citer comme club, un club de Ligue 2 ou de National, mais du sud de la France, je sais pas, si Clermont par exemple t'appelle en janvier et te dit tiens, pour 6 mois, viens nous donner un coup de main. Est-ce que tu es prêt à partir entre guillemets seul? J'imagine que tu vas pas déménager toute ta famille avec toi pour 6 mois, mais est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice-là entre guillemets?
Alors partir seul déjà, c'est ça fait pas partie de ma conception, donc je partirai pas seul.
D'accord.
Maintenant, un projet sur 6 mois, se réfléchit, ça c'est sûr, parce que mon idée principale c'était de pas forcément finir ma carrière comme ça. Donc ça c'est important, donc je serai à l'écoute. Après, bien sûr que la priorité ça reste ma famille, et je serai pas non plus kamikaze, et je mesurerai tous les paramètres pour que tout le monde soit dans les meilleures conditions possibles, donc voilà, ce sera pas forcément ma priorité.
Et alors, ça peut être aussi un projet de vie, parce que j'ai l'impression que c'est aussi un projet de famille, du coup, si tu dis que tu partiras pas seul. Est-ce que, par exemple, alors, faut avoir les propositions, mais c'est aussi le boulot des agents de faire ça, mais je sais pas, si on propose une expérience, je sais pas, moi je pense comme ça aux États-Unis, ou un championnat peut-être.
Maghreb.
Ou Maghreb, ouais, pourquoi pas, ou au Qatar, dans le Moyen-Orient. Est-ce que tu serais prêt à emmener toute ta petite famille avec toi pour 6 mois, 1 an, et faire une dernière pige, et puis. Puis bah après, vous reviendrez en Normandie si vous en avez envie, bien entendu.
Non. Non, honnêtement, je suis pas forcément prêt à bouger, à partir à l'étranger. C'est vrai qu'à un moment donné dans ma carrière, ça aurait pu être un projet, mais très honnêtement, c'est pas forcément quelque chose qui m'a attiré tout au long de ma carrière. Donc partir maintenant, je verrais pas forcément trop le sens.
Ouais, l'intérêt du truc.
Non, et puis même, bon, il y en a pas mal qui partent même à cet âge-là, mais pour l'aspect financier, et chez moi, c'est pas moteur.
Toi, c'est l'histoire, tu veux jouer quoi, tout
voilà,
ça.
Ouais. C'est ça.
Mais pas de déracinement complet.
Non, idéalement, non.
et ouais. Alors, quand on parle de la suite, il y a la suite sportive qui est voilà, à court terme. À plus long terme, est-ce que voilà, un rôle d'entraîneur, par exemple, ça pourrait, c'est quelque chose que vous regardez quand vous dites je prépare la suite, ou toute autre chose, peut-être?
Oui, c'est quelque chose que j'ai dans la tête, passer mes diplômes d'entraîneur. Je pouvais pas les passer cette année parce que les inscriptions étaient déjà passées, mais c'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête, donc j'aimerais passer mes diplômes d'entraîneur, mais actuellement du coup j'en profite du fait d'être accompagné par France Travail pour aussi élargir un peu mes horizons, et puis voir quel métier, quel domaine pourrait me convenir aussi pour la suite. Donc bon, le foot, je sais que c'est là, ce sera toujours là, ma passion, mon amour pour le ballon sera toujours là, donc mes diplômes, je vais les passer, mais du coup, le fait d'être inscrit à France Travail, je vais en profiter aussi pour élargir tout ça et découvrir des horizons que je connais pas. Et puis tenter de trouver des centres d'intérêt différents du sport et du ballon.
Mathieu,
il est
caché derrière mon
est-ce
micro.
Est-ce qu'il peut y avoir aussi une suite avec le HAC, tout simplement, mais
pas forcément sur les terrains, mais peut-être dans un staff, ou peut-être est-ce qu'il y aura une porte ouverte encore. Je crois savoir que Mathieu Bonnemère, vous avez dit un jour, bah, la porte est toujours ouverte. Donc bon, est-ce que on peut imaginer potentiellement une suite?
On peut l'imaginer. Ce serait forcément un souhait de ma part que de revenir au HAC. Après, c'est pour ça que ce temps de réflexion est important aussi, parce que c'est de savoir où, quand, comment, de quelle manière et puis à quel niveau. Donc c'est vrai que Mathieu m'avait ouvert cette porte quand j'étais parti. Donc c'était très respectable de sa part. Donc je le sais, je l'ai dans un coin de ma tête aussi. J'avais aussi rencontré Jean-Michel aussi à l'association du HAC.
Le président Michel Kosineski.
Voilà, c'est ça, pour justement discuter un petit peu des diplômes qu'il fallait. Et lui également m'avait ouvert la porte pour m'accompagner dans ce domaine-là. Donc c'était pas forcément le moment, mais en tout cas, voilà, je suis dans une phase où je recueille un peu toutes les informations pour avoir tous les éléments en main et puis prendre les bonnes décisions le moment venu.
Ouais, sachant que le HAC, en tout cas la direction actuelle, c'est un club qui n'oublie pas ses anciens. Oui. Anto Letalec. Oui. A pris ce chemin-là depuis sa deuxième saison qu'il est revenu au HAC. Je crois qu'il est adjoint de l'AB, si je me trompe pas.
C'est ça.
Voilà, et puis spécialisé aussi un peu des attaquants, forcément. C'était voilà. Et Jean-Michel Lesage, l'année dernière, a fait partie du staff de Lucas Esner. Donc voilà, la direction actuelle, que ce soit Mathieu Bonnemère ou les présidents, ils n'hésitent pas à faire appel à leurs anciens, à leurs glorieux anciens, même s'il y en a plusieurs. Mais ça, je trouve ça pas mal, parce que même pour le public, je trouve que ça donne une cote de sympathie au club. Et je trouve que quand vous êtes en difficulté sur le plan sportif, c'est peut-être un peu bête, mais je pense que les gens sont plus enclins à dire bah, quand même le club respecte un petit peu son ADN. En tout cas, je me rappelle, moi je connais pas du tout Jean-Michel Lesage, mais pour descendre souvent en bord de pelouse la saison dernière et tout, bon, il était souvent applaudi parce qu'il a marqué le club de son empreinte.
Des selfies, même hein, sur les entraînements publics.
Et je trouve que ce HAC-là le fait plutôt bien. Et donc voilà, et donc si on va pas présager de l'avenir, mais si ça se passait pour Alex, ben ça serait un prolongement de ce type de politique.
Oui.
Eh ben merci beaucoup Alex Bonnet d'être venu parler de tout ça à notre micro pour ce deuxième numéro du débrief 100% HAC. On va se quitter avec un tour d'horizon des résultats des autres équipes havraises, et c'était plutôt un week-end
pas brillant.
Défaite 8-0 pour nos féminines en D1 Arkema face au Paris FC leader, les filles qui sont avant-dernière, 12e. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Luc, vous qui connaissez bien et qui avez suivi longtemps cette sélection?
Alors, s'inquiéter, c'est peut-être un grand mot, parce qu'on n'est qu'à deux journées de championnat. Et en plus, quand on connaît le potentiel du Paris FC, qui est, pour moi, peut jouer clairement la deuxième place, le top 2 cette saison en Arkema Première Ligue. Donc, s'inquiéter, je dirais pas encore là, mais bon, c'est sûr que c'est pas un bon signal, hein, ce 8-0. Quand on voit notamment la fin de première période où ils encaissent, je crois, 3 buts dans les arrêts de jeu.
Ouais, c'est un peu lâché là.
C'était compliqué quand même. Hein. Donc,
bon, après, c'est des très jeunes. Enfin,
ça reste très jeune. Voilà.
Des très, très jeunes choses. Le foot féminin, c'est jeune, mais là, Le Havre a poussé la logique vraiment à vraiment des. Ouais, peut-être si. Ouais, bah, encore une fois, ils l'ont fait certainement pour des contraintes financières. Hein, mais là, vous aviez quand même une jeune fille hein, qui est pétrie de qualité, vu qu'elle a été appelée en équipe de France U17.
Émilie Lefebvre,
voilà. Qui n'a pas 16 ans.
Bah, qui a encore 15 ans, oui. Tout à fait.
Donc, c'est fou. Mmh. Alex, à 16 ans, vous évoluez à quel niveau?
16 ans, j'étais en 16 ans nationaux. Donc,
et ça paraît plus logique.
Elle a de l'avance.
On continue chez les jeunes, toujours chez les dames, défaite 2-1 des U19 face au Mans. Les U19 messieurs qui sont inclinés 2-0 face à QRM. Match nul 1 partout pour les U17 face à Versailles. Et puis on va terminer quand même avec une victoire plutôt logique de la réserve face aux municipaux. C'était en Coupe des réserves, score final 3-1. Merci beaucoup messieurs. On se retrouvera dans deux semaines pour un nouveau débrief 100% HAC. D'ici là, nos HACmen qui iront se fronter, on le disait, à un club d'un européen mais d'un tout autre calibre. Le match face au Stade Bressois, ce sera dimanche 6 octobre à 17h. Et votre débrief à retrouver sur tendanceouest.com, footnormand.fr, lecourriercauchois.fr, Deezer, Spotify. Ciao et très bon match à tous.